RMC. M comme Maïtena, Maïtena Biraba.
Salut vous tous, ravi de vous retrouver tous les jours à partir de 15h sur RMC pour parler de l'actu et rencontrer ceux qui la font. À 15h45, un couple médiatique et agricole, c'est rare quand même. Les Saint-Pastou se sont connus grâce à l'amour et dans le pré. Frédéric a tout quitté pour son amoureux et aujourd'hui, ils sont de l'autre côté du périphérique, au salon de l'agriculture. On en profite et ils vont passer une tête dans le studio pour nous raconter les coulisses du salon de l'agriculture et puis nous donner des nouvelles de leur couple tout à l'heure. Mais d'abord, tout quitter, tout changer, partir, vivre mieux, respirer, profiter. Adieu les trajets d'une heure par jour, adieu le métier qu'on n'aime pas, adieu la pollution, le bruit et bonjour la vie. Vous avez tout quitté, vous êtes sur le point de le faire, vous déménagez simplement ou vous changez tout. Où allez-vous et pourquoi le faites-vous? Nous vous attendons au 32-16 avec Jérôme ainsi que sur Twitter, hashtag M quand même.
RMC, M comme Maïtena.
Partir un jour.
Qui n'a pas souhaité un jour changer de vie? Selon un récent sondage réalisé par Opinion Niue, 8 Français sur 10 en rêvent.
J'avais un très bel appartement, je me suis dit, tout ça, il faut que j'arrête.
Certains n'hésitent pas à sacrifier leur carrière pour vivre autrement.
C'est authentique, ça a vraiment du sens, donc je suis vraiment content de le faire.
Je me suis dit, plutôt que d'en rêver, je vais réaliser ses rêves. Et donc, j'ai tout largué.
Maïtena Birabin.
Bonjour Philippe Gabillet.
Bonjour.
Vous n'avez pas tout largué parce que vous êtes heureux, vous?
Moi, tout va très bien pour
vous
moi.
Vous êtes bien là où vous êtes. Hein.
Moi, je suis bien là où je suis, mais j'ai plein de gens autour de moi qui disent, oh quand même, si j'essayais.
Voilà. Tu m'étonnes, 7 Français sur 10 veulent changer de vie. Vous êtes professeur de psychologie et vous publiez justement l'art de changer de vie en 5 leçons. C'est aux éditions Saint-Simon. Je disais 7 Français sur 10 qui ont envie de changer de vie. Est-ce que ce chiffre, il est en augmentation ou il est toujours le même? C'est un fantasme
non,
ou alors
oui,
ça
augmente alors, c'est, ouais, non, oui, c'est un fantasme, mais c'est un beau fantasme. Hein,
oui.
Après, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir les raisons pour lesquelles, au bout du compte, on n'y va pas, ou quelles sont les craintes qu'ils ont derrière.
Mais, il y a de bonnes raisons parfois de ne pas y aller.
Mais en tout cas, quand on regarde les études, elles sont parfois bizarres, hein, les raisons. Par exemple, vous avez, allez, je vous dis, 15% des gens, par exemple, qui disent, la raison clé pour laquelle je veux pas changer de vie, c'est que je suis pas sûr que mon banquier me suive. Alors, vous voyez, l'aventure n'est pas toujours au coin de la rue, quand même, hein, voilà. On est des aventuriers, mais on fait gaffe, quand même, quoi. Donc, non, la première des raisons, c'est fondamentalement parce que si je change de vie, je risque, c'est cette espèce d'idée qui revient régulièrement, je risque de casser un truc dans mon écosystème.
Ouais.
C'est-à-dire, effectivement, j'ai peut-être changé de vie pendant un certain temps.
Renoncer.
Et parfois, c'est renoncer à du lien.
Ouais.
Et à des liens sociaux, à des liens amicaux. Mm-hmm. Et c'est ce travail de reconfiguration du lien qui, parfois, peut poser problème. Mais ceux qui... et celles qui ont vraiment envie de le faire, simplement, d'abord, ils peuvent embarquer des gens dans leurs rêves, déjà. Et puis, sur place, ils peuvent reconstituer aussi.
Ah,
un écosystème, ça se recrée. Hein.
Sauf si on part vivre dans l'Antarctique et qu'on a l'intention de discuter avec les pingouins.
Mais le pingouin est super sympa quand on le connaît.
Antoine Colson, bonjour.
Bonjour.
Vous dirigez Parcours France. En fait, Parcours France étudie les territoires dans notre pays et les aide à se mettre en valeur, alors que ce soit du point de vue économique, enfin, des atouts, quoi, les atouts des territoires ou les atouts des sociétés. Vous y croyez, vous, ce qu'on appelle la décentralisation, qui est un gros mot dans notre pays. Il y a Paris, puis il y a le reste de la France, un peu comme ça, perdu, on ne sait pas vraiment.
J'y crois comme y croient effectivement aujourd'hui les Français. La décentralisation, il y a le terme, je dirais, administratif, des énarques.
Qu'est-ce que vous dites, vous?
Moi, je parle de déconcentration. Je trouve que c'est vraiment le mouvement, c'est un mouvement où tout est concentré en région parisienne, le
mais
pouvoir
c'est faux,
économique,
c'est faux.
Et qui tend, non, aujourd'hui, effectivement, ça tend à se rééquilibrer au profit des régions.
Quand vous dites aujourd'hui, ça tend à se rééquilibrer, ça fait combien de temps? Parce que moi, j'ai pas l'impression que tout se passe à Paris, c'est pas vrai.
Ah, quand même, ça a la peau dure. La 38 entreprises du CAC 40 sont en région parisienne.
Ouais.
Je crois qu'elles étaient à 40 il y a encore une petite dizaine d'années. Donc ça y va petit à petit en région, mais la concentration reste quand même assez importante.
Est-ce que vous avez
les médias,
sociétés...
par exemple, vous le savez, les médias sont quand même en grande partie en région parisienne.
Ouais.
Alors que aujourd'hui, les réseaux sociaux, n'importe qui devient aussi un petit peu créateur de contenu ou d'information où il se trouve.
Vous pouvez pas inviter les réseaux sociaux au micro, c'est un peu compliqué.
C'est vrai.
Mais est-ce que vous avez des sociétés qui vous appellent en disant, moi j'en ai marre, je veux partir, des grosses sociétés par exemple?
Il y a de belles entreprises aujourd'hui qui effectivement, alors souvent elles coupent pas tout à fait la racine en région parisienne, mais elles tendent à se dire, c'est en province, en région qu'on va aller se développer. Pour des tas de raisons, pour offrir à leurs salariés une meilleure qualité de vie.
Bah oui.
Parce que c'est les salariés qui savent aussi que même s'ils perdent un petit peu en salaire, Au final, en pouvoir d'achat, ils y perdraient pas autant.
Et les Français sont prêts à ça. Hein. Enfin, les Parisiens, en tout cas, sont prêts à limiter leur salaire. Parce qu'on va trop vite. Il y a plein de questions. Oui, il y a plein de questions. Déjà, si vous voulez délocaliser votre société, si vous comptez quitter la région parisienne, appelez-nous 3216. Ensuite, messieurs, première question. On l'a déjà dit trois fois depuis qu'on a commencé. C'est toujours Paris qu'on veut quitter. On veut jamais partir d'ailleurs. C'est toujours de Paris et de la région parisienne qu'on veut partir. Antoine Colson.
Les grands changements de région, là je vous parle statistiquement, ouais. Les grands changements de région, 40% sont à l'origine ou à destination de la région parisienne. C'est-à-dire que c'est presque un mouvement de grande région sur deux en France, a pour Paris comme origine ou comme destination. Donc Paris reste quand même un point important de ces grandes migrations. Après, il y a effectivement des Marseillais qui veulent aller vivre en Bretagne, ça c'est évident.
Philippe Guédillet, pardon. C'est toujours de Paris qu'on veut partir.
Oh, c'est souvent de Paris dont on veut partir, mais parfois c'est pas obligatoirement un désir volontaire. On aurait préféré peut-être y rester à Paris. Seulement, vous mettez coup sur coup un problème de couple, un problème de santé.
Mais ça, ça peut arriver à Bordeaux, à Narbonne,
oui,
à Perpignan.
Si ce n'est que quand on est, un truc tout bête, voyez, c'est vous prenez votre retraite à Paris, vous n'êtes pas propriétaire de votre logement, et ben voilà, instantanément, vivre dans Paris intramuros pose problème et des gens sont pas prêts à aller en banlieue et alors en grande région parisienne, il y aura souci. Donc voilà, on n'est pas toujours volontaire pour le faire, mais c'est vrai que voilà, il y a une force centrifuge à Paris qui fait que beaucoup de gens, pas tous, puisqu'il y en a qui adorent Paris, mais aimeraient peut-être partir avec l'idée que peut-être qu'en dehors de Paris, il y aurait autre rythme, autre qualité de vie, etc.
Ce qui est pas faux. Patrick est avec nous, 3216. Bonjour Patrick.
Bonjour Maïtena.
Merci d'être là avec nous. Alors vous, Patrick, vous avez été radical. Vous avez vraiment changé de vie.
Oui. Alors, j'ai écouté bien évidemment le début de votre émission, là, mais vos interlocuteurs, ils parlent du fait de changer, de partir de Paris pour aller vers la province, mais donc on peut aussi partir, aller au-delà de soi, on n'est pas obligé. Oui. Vous savez, le fait de changer de vie, c'est pas uniquement géographique.
C'est vrai, vous avez raison, on peut changer en restant sur place.
Exactement.
C'est ce que vous avez fait ?
Tout à fait. Alors moi, évidemment, comme tout ancien fonctionnaire qui se respecte, j'ai bien évidemment commencé par la région parisienne. Bien content de revenir chez moi en région toulousaine, comme vous l'entendez.
Ah bon?
mais ensuite, bon, j'étais dans la fonction publique pendant 30, 35 ans.
Bah, vous étiez fonctionnaire de police.
Exactement. Voilà. Et puis, écoutez, au bout d'un moment, j'ai eu l'impression que, comment vous dire, vulgairement parlant, je pataugeais un peu dans mon jus, et puis j'ai pris une disponibilité, je sentais que j'avais des picotements au bout des doigts, et puis je me suis dit, bon, attends pas d'être trop vieux pour faire ce que t'as envie de faire, quoi, tout simplement.
Ouais. Et donc?
Et donc, je suis devenu auteur, c'est-à-dire que je me suis mis à écrire. Ouais. Alors, j'avais commencé un petit peu avant de quitter l'administration. Donc j'avais fait de la poésie, tout simplement, comme quoi la police peut mener à tout.
Attendez, excusez-moi, je résume, Patrick. Flic, poète.
Et auteur aujourd'hui.
Extraordinaire, bravo.
Voilà. Et donc j'ai rencontré des gens aussi disparates que Moustaki, que Lalanne, ou Dominique de Villepin. Et puis je me suis
dit... Oui, c'est disparate, oui.
Oui, c'est normal. Oui. Bah, les trois fous de poésie, voilà. Et puis un jour, bon, je me suis dit, ben, comme t'as quand même une petite expérience policière, pourquoi ne pas faire du polar?
Ben oui, bien sûr.
Voilà, donc.
Et comment ça marche, Patrick?
Ben, ça marche pas trop mal. Je suis chez, parce que bon, vous connaissez, c'est pas facile, hein.
Non, c'est pas facile.
C'est pas facile. Mais je suis, une maison d'édition qui s'appelle De Bourré, qui me fait confiance depuis des années. Donc, je...
Pas de regret sur votre expérience. Vous êtes heureux. Ça a été difficile, non. mais aucun regret.
Non. Ouais. Alors il faut pas faire. Vous le savez, il faut pas faire ça pour l'argent. On est bien d'accord. Il faut être lucide aussi. Il faut avoir pris des précautions avant.
Oui.
Donc bon, on est d'accord. Mmh. On est d'accord. Ce que j'ai fait. Mais au niveau, si vous voulez, du fait d'avoir quitté l'administration pour faire ce que j'aimais.
Oui.
Là, j'ai une plénitude totale.
Ça n'a pas de prix, Patrick, évidemment.
Ça n'a pas de prix.
Alors,
si vous voulez, juste un mot, pour tout schématiser, plutôt que de subir la société, je fais la mienne.
C'est très joli. Alors, restez avec nous, Patrick, parce que Laurent est aussi avec nous au 3216. Bonjour, Laurent. Merci d'être là avec nous. Alors, vous avez entendu Patrick, est-ce que ça vous donne du baume au cœur, Laurent?
C'est surtout que j'ai à peu près la même vision. Moi, c'est un peu plus jeune, hein, mais j'ai 30 ans. Et madame, c'est l'âge un petit peu où on se pose des questions. Récents parents, et puis on se disait que voilà, la région parisienne n'était pas faite pour nous. On a plus besoin de grands espaces, de choses comme ça. Et donc, on s'oriente vers une future carrière en Haute-Savoie.
Mais vous en êtes où exactement, là? Vous avez pris la décision?
La maison est vendue, on est, wow. on est dans les préparatifs, donc on a quitté chacun nos postes. Ouais. Et puis voilà, on va pas totalement dans l'inconnu parce qu'on a la famille sur place, on mm-hmm. connaît la région, mm-hmm. mais voilà, surtout on laisse quand même tous les amis, la famille, on voilà.
Qu'est-ce qu'on vous dit autour de vous? Qu'est-ce qu'on alors vous partez pour la Haute-Savoie en fait, hein, vous quittez oui, la région parisienne pour la Haute-Savoie et qu'est-ce qu'ils vous ont dit vos potes autour de vous? C'est quoi la réaction des gens?
Bah qu'on est fou, mais c'est beaucoup, c'est ouais. souvent le cas. Hein. C'est on est fou, mais enfin.
Ça, vous êtes fou, c'est sûr.
On est dans le carrefour de nos vies où on se dit que il faut mener à bien ses projets et je pense que ça donnera l'idée à certains.
Oui, on vous envie ou pas, Laurent? Est-ce que vous voyez que les gens vous envient? Les autres vous envient?
Je pense qu'on est un petit peu un laboratoire. On fait un essai, on est les rats de laboratoire. On regarde faire et on verra si on se plante ou pas. Et si on se plante pas, ça donnera certainement des envies à d'autres. Ouais. Mais c'est surtout la région parisienne, c'est plus possible. Quoi. C'est le stress quotidien, beaucoup de moi je suis beaucoup sur les routes, donc c'est juste plus gérable.
Est-ce que Patrick, vous avez un petit mot à adresser à Laurent?
Oui, ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord avec lui, mais qu'il n'hésite pas une seule seconde. Quand on sent qu'on a envie de faire quelque chose, bah, quand on sent qu'on a une pulsion un peu viscérale, il faut surtout y aller. Quoi. On peut avoir un échec, c'est vrai qu'on peut avoir un échec dans la vie, qui n'en a pas eu. Mais vivre,
c'est pas grave.
Mais tout à fait, mais vivre avec un remords et se dire un jour, si j'avais su. Il n'y a rien n'est pire que ça.
Rien n'est pire que ça. Il n'y a que ceux qui font rien qui font jamais. Donc,
tout à fait.
Donc on prend notre chance et on verra bien ce que ça donne.
Ça me fait penser, totalement, mais qui n'hésite pas.
Ça me fait penser à la chanson de Big Flo et Loli. On aurait dû y aller, là, vous savez. C'est exactement ça.
Je vais être un peu plus ancestral que vous, Maïtena.
Allez-y, soyez ancestral.
Avec une phrase de Sénèque qui disait exactement ça. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles.
Et voilà. Je vous laisse méditer. Vous avez 4 heures. Merci Patrick, merci Laurent d'avoir été avec nous. Oui, très vite.
Est-ce que je peux citer juste le prix de mon dernier polar qui est
bien
sorti
sûr.
Chez Debouré,
évidemment.
Et qui s'appelle Le prix de la mort, donc chez Debouré, qui est sorti il y a 3 mois.
C'est Patrick l'auteur.
Patrick Pojol, mon nom c'est Patrick Pojol. Le prix de la mort, donc chez Debouré.
Merci beaucoup d'avoir
merci
été avec
beaucoup,
nous Patrick.
Maïtena.
Bonne route Laurent, on vous embrasse, on pense à vous. Bonne installation en Haute-Savoie. Si vous avez changé de vie et que vous le regrettez, n'hésitez pas à nous appeler. Puis dans un instant, nous allons être avec l'adjoint à la mairie de Rennes qui a gagné la place de la ville où il fait le meilleur vivre dans le classement de l'Express. Didier Le Bougeant est avec nous dans un instant. À tout de suite au 32-16.
RMC, M comme Maïtena. RMC.
Hey, on se fait un ciné? On se fait un petit ciné, il y a une séance à 16h.
Non, parce qu'à 16h, c'est le Super Moscato Show avec Vincent Moscato sur RMC.
Alors pas de ciné, pas de TV, pas de sieste, on allume la radio.
Le Super Moscato Show, c'est du lundi au vendredi, 16h-18h sur RMC.
Et me ratez pas parce que moi, je vais pas vous louper.
Il y a toujours un mec quand tu lui dis « Eh, tu savais qu'en février, chez Red, ils font la fibre à 15€ par mois ?» Il te répond
« Ouais, bah moi je suis au ski. »
Ah ouais, il est au ski. Et qu'est-ce qu'il va faire au ski avec 15€? Un cours de 15 minutes? Louer un seul ski? Un bâton? Juste une chaussure? Alors que toi, t'as chopé la fibre pour 15€ par mois, un prix qui double pas au bout d'un an? C'est le bon plan de rester surfer chez soi! Rendez-vous vite sur redbysfr.fr. En ce moment, la fibre, c'est 15€ par mois sans engagement. Offre soumise à condition, réservée aux nouveaux clients jusqu'au 5 mars. Fibre sous réserve d'éligibilité, frais d'ouverture 49€, détails sur redbysfr.fr.
RMC Rugby. Samedi, l'Union Bordeaux-Bègles reçoit le Stade Toulousain pour son dernier match de la saison au Matmut Atlantique. Avant le match, profitez de la fan zone du stade avec de nombreuses animations. Billets à partir de 10€. Info sur ubbrugby.com. UBB Toulouse. Samedi à 20h45 au Matmut Atlantique. Avec RMC. RMC, M comme Maïtena.
Quitter son travail, changer de lieu de vie, vivre sa passion, eh bien vous êtes de plus en plus nombreux à franchir le pas.
Je me suis rendu compte que je m'étais complètement égarée et que justement j'avais oublié de poser les bonnes questions sur qui j'étais.
J'ai créé ma société, j'ai jamais eu aussi peu d'argent, mais c'est vachement bien parce que je suis content de ce que je fais.
Vous étiez publicitaire et puis aujourd'hui vous êtes pianiste de jazz.
On peut très rapidement oublier qui l'on est jusqu'au jour où l'on ouvre les yeux et tout d'un coup on se rend compte qu'on n'est pas là où on doit être.
Maïtena Birabin.
Nous discutons de nos vies et si on changeait tout, simplement en déménageant, simplement en changeant notre manière d'être, parfois juste notre manière de consommer, je sais pas, vous êtes devenu végétarien, ça a changé complètement votre vie, ou simplement en changeant tout vraiment, en changeant de métier, en changeant de région, en changeant de lunettes, pourquoi pas. On en discute avec Philippe Gabillier qui est professeur de psychologie et auteur de l'art de changer de vie en 5 leçons aux éditions Saint-Simon. Je pense que ça va cartonner votre livre puisque 7 Français sur 10 veulent changer de vie. Et avec Antoine Colson qui dirige Parcours France et qui étudie les territoires de notre pays pour les aider à se mettre en valeur. Alors il y a un territoire qu'on n'avait pas besoin d'aider, Antoine Colson, c'est Rennes. Il y a eu un classement dans l'Express des villes où il fait bon vivre et des villes où il fait bon travailler. En tête des deux classements, numéro 1 des villes où il fait bon vivre, Rennes. Numéro 2 des villes où il fait bon travailler, Rennes. Nous sommes avec Didier Le Bougeant, l'adjoint au maire de Rennes. Bonjour Didier.
Bonjour Maïtena.
Merci
d'être
là. Et félicitations, quoi. Je ne peux pas vous dire mieux, quoi. Vous êtes au top à Rennes.
Merci, merci. C'est une grande fierté pour les Rennaises et les Rennais, oui.
Mais vous avez compris pourquoi, vous ?
Ah ben, on le comprend tous les jours, pourquoi.
Ouais. Dites-nous,
en vivant
alors.
À Rennes, on comprend tous les jours pourquoi et on n'est pas surpris. Il y a une certaine fierté d'une construction de cette ville et d'une ville qui attire, une ville qui est, dont les Rennais disent leur fierté, mais leur joie d'y habiter tous les jours. Donc Rennes, c'est une grande ville, une grande ville qui se développe, mais qui se développe aussi tout en accueillant tout le monde.
Alors la LGV, donc la ligne à grande vitesse, a forcément... améliorer l'attractivité de la ville ou je me trompe ?
Ah ben c'est un coup de boostoir incroyable. C'est une chance pour la ville, mais c'est une chance pour la Bretagne parce que Rennes, c'est la porte ouverte vers la Bretagne. Donc on a envie de dire passer à l'ouest, goûter à la Bretagne. Et la Bretagne, c'est évidemment une image de qualité de vie, une image de grands espaces, une image naturelle.
Non mais là, vous nous faites le dépliant publicitaire, mais en
mais
vrai, non mais ça va pas. Dites-nous.
Mais en vrai, parce que en vrai, c'est aussi ça. En vrai, c'est Rennes, c'est une demi-heure de Saint-Malo.
C'est vrai.
Voilà, c'est la première plage de Paris. Ah. Aujourd'hui, c'est Saint-Malo.
Ça a combien de temps de Paris, Didier, maintenant avec la LGV ?
1h25. 1h25 de porte à porte.
Ouais. Donc ça veut dire 3h25 de Bordeaux, quoi.
3h25 de Bordeaux.
C'est complètement dingue.
Voilà, donc c'est voilà, vous avez quand même 2 heures d'avance pour être dans la couleur et dans la douceur de ville rennaise.
Alors vous espérez qui vous aimeriez qui vienne s'installer à Rennes ? Des jeunes, des informaticiens, des étudiants, des entreprises ?
On est une ville extrêmement jeune. Alors on fait pas de l'attractivité rennaise pour de l'attractivité, c'est-à-dire que on construit la ville pour les Rennaises et les Rennais avec un bouillonnement culturel qui fait que Rennes aussi en tête des palmarès, sa douceur de vivre, on construit la ville 1500 logements par an. C'est aussi pour accueillir tout le monde au cœur de la ville. On est une ville, une agglo qui est dynamique, une agglo qui quand même le plus faible taux de chômage de France, 7%, dans tous les domaines des offres d'emploi. Et puis on veut garder cette qualité de vie. On sait que les Français sont de plus en plus attachés à cette qualité de vie, notamment environnementale, l'air qu'on respire, le développement des transports doux. On va ouvrir notre deuxième ligne de métro et puis surtout aussi le vélo qui se développe.
Bien sûr. Alors,
plus
Didier...
33% de pratiquants de vélo chaque année à Rennes. Donc voilà, c'est la qualité de vie qu'on construit pour les Rennaises et les Rennais.
Vous êtes au taquet. Non, ça suffit, Didier,
pardon,
c'est pas possible. Vous êtes génial. Allez, vive Rennes, je le dis avec vous. Et je le dis une fois encore de manière publique. Dieu sait que ça me fait mal au cœur. Il pleut moins en Bretagne qu'au Pays Basque. C'est une certitude.
Mais
ça suffit, ne commentez pas ça.
Aujourd'hui, on a un super...
Ça suffit maintenant. Vous sortez, Didier. Merci infiniment d'avoir été avec nous.
Et vous savez qu'en plus, les Bretons sont sympas.
Ah oui, je sais ça. Et on mange bien chez vous. Merci beaucoup, monsieur le maire adjoint. Saluez les Rennais et les Rennaises. Il vient de parler, Didier Le Bougeant, de l'importance du trafic ferroviaire ou du trafic routier pour s'installer dans une ville ou pour déménager, à moins qu'on veuille évidemment s'installer dans un désert, ce qui est aussi une volonté, mais c'est extrêmement important, les dessertes de mouvement, Antoine Colson.
Je pense que ça l'est. En tout cas, ça jette vraiment un coup de projecteur sur Rennes. Et on l'a vu là quand sur la Bretagne, quand ils ont, quand ça a été inauguré cette ligne TGV. Je pense que dans l'esprit des gens aussi, ça rend le projet plus accessible, plus proche simplement.
C'est ça.
On se dit, on est qu'à 1h30 de là où on habitait avant. Donc effectivement, ça a un impact. Après, c'est pas ça qui fait la décision, c'est sûr.
Non, bien sûr que non. Alors, Philippe Gabillier, vous allez écouter avec beaucoup d'intérêt et je pense d'attention Charles qui est avec nous au 32-16. Bonjour Charles.
Bonjour.
Bienvenue. Ça va?
Ça va, oui.
Ouais, ça va. Bon, alors vous avez tout changé, et puis, là, ça n'a pas été terrible, hein.
Oui, c'est ça. Enfin, j'ai plutôt un témoignage à apporter à ceux qui voudraient changer de vie par amour, et particulièrement aux jeunes.
Ouais.
C'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai changé de vie, de ville, de métier, pour habiter avec la personne que j'aimais à l'époque, parce qu'on était follement amoureux, et dans ces cas-là, on ne peut pas concevoir les choses autrement.
Ouais.
Du coup, je suis passé de la région parisienne à la Bourgogne.
Ouais.
J'ai loué un appartement pour deux personnes, le temps que la personne que j'aime puisse aussi déménager et faire un transfert de sac, parce qu'elle était étudiante.
Ouais.
Et j'ai accepté un poste beaucoup moins intéressant que celui que j'avais à l'époque. Et finalement, une fois installé, cette personne a pris peur, m'a complètement rayé de sa vie, on va dire, du jour au lendemain, sans explication, alors qu'il n'y avait aucun signe annonciateur. Et voilà, du coup, aujourd'hui, vous l'imaginez, moi, j'ai le cœur brisé, je suis tombé malade, on peut le dire, même en dépression, que j'ai perdu mon emploi, mon appartement aussi, et j'essaie de relever la tête, quoi.
Bon, par ailleurs, Charles, vous avez 21 ans.
C'est ça.
On est d'accord, hein. C'est le début de la vie, quoi. Vraiment. C'est vraiment pas cool ce qui vous est arrivé, mais il va vous arriver des trucs fantastiques, j'en suis sûr. Vous le savez, ça aussi, Charles.
Totalement. C'est ce que mes proches essaient de me dire pour me rassurer. Et ils ont certainement raison. Mais voilà, le but de mon appel à RMC aujourd'hui, c'est vraiment de parler aux jeunes et de leur dire de pas faire cette bêtise s'ils sont pas complètement sûrs.
Alors, Philippe Gabillier, dans son livre, L'art de changer de vie en 5 leçons, propose des questions à se poser avant de partir. Ce que nous dit Charles, c'est de dire, j'ai suivi mes émotions, il le dit extrêmement clairement, c'est les émotions et c'était l'impulsion, je suis parti sur un coup de tête. Il faut pas faire ça, Philippe Gabillier.
Mais ça serait dommage de se priver du choix romanesque, quoi, hein. Ben oui,
faut et le vivre, on joue,
bien sûr,
on
parce que le problème c'est que si Charles ne l'avait pas fait, il aurait jamais su que ça allait se passer comme ça.
C'est vrai, est-ce que ça serait pire?
Un regret qui peut être quelque chose de très 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 toxique aurait pu s'installer. Donc là effectivement, ça s'est pas passé comme prévu, mais est-ce que le fait de changer de vie, donc de quitter, ça a tout chamboulé, ça je l'entends bien. Après la question c'est de se dire j'ai perdu quelque chose, est-ce que le prix à payer aujourd'hui pour reconstruire c'est quoi? Par exemple, faut se dire, est-ce qu'il faut que je revienne? Par exemple, je sais pas, est-ce que vous vous dites il faut que on arrête les frais, je reviens sur Paris ou tout compte fait, je peux bâtir des choses en Bourgogne parce que c'est une belle région. Je peux y faire des choses. Ou bien je veux faire table rase de ça et repartir en gros là où j'avais arrêté l'histoire.
Mais
il y a vraiment plein de choix à faire à ce niveau-là.
Philippe Gabillier, au-delà de l'histoire précise de Charles, quelles questions il faut absolument se poser avant de prendre sa décision?
Je vais vous dire, déjà, la première question qu'il faut se poser quand on veut changer de vie, c'est paradoxal, mais c'est qu'est-ce qui ne changera pas?
Oui.
C'est-à-dire, quelles sont les choses auxquelles je tiens et qui, elles, en revanche, ne devront pas bouger? Certains vous diront, c'est mon système de valeurs. Moi, je veux bien changer, mais je veux pas que mon équilibre familial soit perturbé. Donc c'est-à-dire que si mon conjoint et mes enfants veulent pas venir avec moi, va falloir qu'on négocie, quoi.
Ou au contraire, si on veut changer parce qu'on est malheureux en couple, mais on va changer avec son couple, donc on continuera à être malheureux ailleurs.
Et puis de toute façon, la notion est de négocier avec ses proches, elle est très importante. Moi, j'ai souvent dit à des gens, et quand je posais cette question, j'avais jamais vu ça comme ça. Mais une question que je posais souvent, c'était, imaginez que demain vous viviez la vie dont vous rêvez, est-ce que ça va faire de la peine à quelqu'un que vous aimez aujourd'hui? Et là, tout d'un coup, on me dit, attendez, si vous prenez le problème comme ça, d'accord, faut que je réfléchisse. Parce que, de toute façon, un changement de vie, si vous voulez, c'est toujours la fin de quelque chose. C'est comme ça. Mais c'est pas un problème, à condition que ce soit le commencement d'autre chose.
Oui,
s'il y a vraiment, la mécanique ne marche que dans un sens, on se met en risque.
Charles, j'espère que vous avez bien reçu le message. C'est le commencement de quelque chose. Écoute, maman chérie, ça va aller.
Merci beaucoup en tout cas pour le message et pour vos mots, ça me touche énormément.
Mais tant mieux, allez-y, en avant, calme et droit mon garçon. 32-16, n'hésitez pas, on vous attend si vous avez changé de vie. Mickaël est avec nous, on va... Cette chanson est abominable. Ah, on les embrasse. Mickaël est avec nous, merci d'attendre Mickaël, parce que vous avez changé plein de fois, vous allez nous raconter ça. Vas-y, remets-moi les machins là. Ah mais mon Dieu, à tout de suite, 32-16.
RMC jusqu'à 16h, M comme Maïtena, Maïté Nabirabin.
Ah non, moi je vais pas m'enterrer dans un trou, ça c'est pas possible, je ne vais pas le faire. Vous vous dites ça, appelez-nous 3216, ou alors vous voulez monter à Paris, ou alors au contraire, puisqu'il semblerait que ce soit la loi du genre, vous voulez quitter Paris et la région parisienne. C'est vrai qu'on entend rarement parler de gens qui veulent quitter Bordeaux. Ou qui veulent quitter Nice, ou qui veulent... C'est vrai que c'est peut-être que ça vous est arrivé, vous avez voulu quitter Nice, appelez-nous. Et vous êtes parti à Lille ou inversement. Allez, racontez-nous, on est avec Antoine Colson, qui étudie les territoires de notre pays et qui aide les entreprises ainsi que les territoires à mettre en valeur et en fait à ne pas rester tout concentré autour de Paris, avec Philippe Gabillet qui signe L'art de changer de vie en cinq leçons, aux éditions Saint-Simon, et avec Mickaël qui nous attend depuis un bon moment au 32-16. Merci Mickaël de votre patience et de votre témoignage. Vous êtes chou, vraiment. Alors vous en êtes où là? Vous avez eu combien de vies déjà, Mickaël?
Alors j'en suis à ma troisième.
Oh, c'est génial. Vous avez quel âge?
J'ai 37 ans.
Ok. Alors racontez-nous, comment vous faites
En fait, pendant 5 ans, j'étais agent de sécurité. Mm-hmm. Et du jour au lendemain, en fait, j'avais envie de vivre de ma passion qui est l'automobile, donc la mécanique auto.
Ouais.
Et j'ai passé un titre professionnel qui m'a permis de faire ça pendant 5 ans.
Donc de la mécanique?
Voilà, j'ai fait de la mécanique auto dans une grande enseigne de centre auto.
Ok.
Et arrivé vers les derniers temps, en fait, qu'il y avait tellement de pression au niveau de ce métier.
Ouais.
Et puis, il faut dire ce qui est, c'était un métier qui est devenu, entre guillemets, ingrat.
Ouais.
Sur les conseils d'un de mes collègues qui a fait la même formation que moi, en fait, je suis parti pour passer mes permis poids lourds.
Mm-hmm.
Oui, à l'heure actuelle, donc je suis conducteur routier.
D'accord. Et donc, comment vous faites? Vous, à chaque fois que vous avez... vous faites des reconversions, quoi, en permanence?
Voilà. Là, ça a été le cas par deux fois, en fait. La première, c'était via Pôle emploi et l'organisme de l'AFPA.
Oui.
Et le second, c'était par le fonds gestif.
Et vous avez le sentiment de changer de vie à chaque fois, Mickaël?
Changer de vie et surtout avoir le plaisir et... avoir entre guillemets une certaine passion pour le métier que j'exerce.
Ben oui, avoir l'envie d'y aller tous les matins, c'est ça en fait.
Voilà.
Est-ce que vous changez de lieu aussi à chaque fois ou pas? Ou vous restez au même endroit?
Non, je suis toujours au même endroit.
Et vous avez construit une vie de famille?
Voilà.
Ah ouais, donc vous changez juste de métier quoi en fait, tout le temps?
Voilà.
Enfin tout le temps, j'exagère, mais quand l'envie vous en prend. Et ça fait combien de temps que vous êtes conducteur de poids lourd là?
Ça va, ça fera un an au mois d'août.
Ah ok, donc on a encore 2 ans devant nous, on est tranquille. C'est
non,
ça.
On va dire que là j'ai vraiment trouvé un métier qui ouais. me plaît, où il y a vraiment pas de pression. Je suis vraiment à l'aise et ouais, je me promène dans toutes les régions de France.
Bah oui, c'est ça. Vous alliez un peu tout là. Il y a un peu toutes les qualités que vous recherchez. Antoine Colson, voilà. Avant de changer de métier, les questions qu'il faut se poser, c'est quoi quand on n'a pas une passion comme Mickaël?
Il me semble que la première des choses, c'est sans doute de le tester ou de se tester, c'est-à-dire de se rapprocher de gens qui font le métier que vous voulez.
Parce que
si
par exemple je suis agent d'assurance et je me dis non, en fait je veux élever des chèvres dans le Lazac, il faut aller voir un éleveur de chèvres.
Je pense
que
c'est
quoi.
Pas mal de se tester,
mieux,
ouais. Et puis en toute saison d'ailleurs, pas uniquement en plein été.
Ouais.
Et puis ce qui me semble aussi, c'est de bien gérer les transitions une fois que le projet est bien mûri et qu'on veut avancer, c'est se gérer une transition qui permette aussi d'aménager ses risques, d'être accompagné comme l'a été Mickaël apparemment, pour se donner vraiment toutes les chances de réussite.
Ouais. On a énormément de messages. Bon, on le savait en préparant cette émission, mais je vous en livre quelques-uns. Vincent qui nous dit je suis parti de la région parisienne pour Vannes, je n'ai aucun regret, je mets plus les pieds à la capitale même comme touriste, ever. J'étais commercial grand compte dans le tourisme, nous dit Guillaume. Depuis tout petit, je voulais être cuisinier, mais j'étais bon à l'école. Mais j'ai tout lâché pour aller à Bordeaux. Je suis devenu cuisinier. J'ai passé un équivalent CAP. Aujourd'hui, je suis chef dans un petit resto. Je cuisine que du frais et du local. Je suis heureux. J'étais cadre commercial en concession automobile, nous dit Jacques. Et à 40 ans, j'ai dégoupillé. J'ai changé de région, de métier, d'épouse. Ah, t'as pété un plomb, Jacques, quand même. Et depuis, je viens conte de fées, comme quoi il ne faut s'attacher à rien. Bah, quand même un peu, c'est pas mal, l'amour. Mon départ pour l'étranger définitivement avec ma nouvelle femme. Ah bah oui, quand même, tu t'es recasé. Hop. Mathieu nous dit, j'ai tout changé en partant vivre au Canada avec ma famille. On ne devrait jamais quitter Montauban. Dit Yannick. Il y a Benjamin qui me dit, mais moi, je veux quitter Nice, s'il te plaît, madame. Qu'est-ce que c'est drôle. Bon, Mickaël, vous avez, il vous faut du courage à chaque fois, ou votre femme, elle a un peu peur ou pas?
Non, pas spécialement. Après, voilà, on savait les inconvénients du métier. Il y a aussi, bon, il y a quelques avantages aussi, hein, faut dire ce qui est.
Ouais.
Et puis, ça s'est fait comme ça. Hein.
Bon, mais elle a le cœur bien accroché quand même si vous changez de travail régulièrement. Elle est sympa.
Non, mais, là, je pense que c'est parti jusqu'à la retraite.
Bon, bah, super. Bah, on vous souhaite d'être heureux. Et puis, s'il faut rechanger, vous rechangerez, c'est pas le sujet. Christophe est avec nous également au 32-16. Bonjour, Christophe.
Bonjour, Aitana.
Ça va?
Ça va, impeccable. Bon. Il neige ici.
Il neige, là? Il neige? Mais vous êtes dans le Var?
Ouais. Je suis dans le Var, dans le sud, à côté de la mer, en plus.
Oh, mais c'est complètement dément, ça doit être magnifique.
Je suis sur mer.
Alors, Christophe, vous êtes un édito de Marie-Claire, hein. On va pas, je viens de prendre l'exemple. Je dis, voilà, bien sûr, on a tous envie d'aller élever des chèvres dans le Larzac. Bah, vous, c'est pas dans le Larzac, mais vous êtes devenu berger et vous faisiez de la gestion de patrimoine.
Exactement. Alors j'ai un bac plus 5 en droit, j'ai un bac plus 5 en gestion de patrimoine également.
Ouais.
Et j'ai fait ça pendant 12 ans, j'avais des cabinets, j'avais des salariés, j'avais des comptes comme Saint-Gobain, etc.
Ouais.
Beaucoup d'argent, beaucoup de tout en fait.
Ouais.
Et au fil des rencontres et de promenades et de destin, on va dire, on a rencontré avec ma femme, comme ça, en forêt, quoi. On était en balade tout simplement, on a rencontré un berger de 87 ans.
Ouais.
Bruno, il s'appelle, il s'appelait. Et Bruno, 87 ans, toujours avec ses biquettes et ses moutons, et il faisait encore son fromage, les transhumances et tout ce qui s'ensuit. Et il en avait un peu ras-le-bol, quoi, ras-le-bol. Il était fatigué de son métier.
Bah oui, 87 ans,
mais fatigué de son métier. Donc, il me dit, bah tiens, gamin, écoute, j'ai 40 ans, hein, mais bon, ça reste gamin quand on a 87 ans, on va dire. Et puis, il me dit, si tu veux, je t'apprends le métier, et puis je te donne le troupeau, et tu reprends derrière.
Mais il vous dit ça, il ne vous connaissait pas.
Et ça s'est fait comme ça, ça s'est fait comme ça. Il m'a appris, ça a duré à peu près un an.
Non mais attendez, Christophe, excuse-moi, parce que là, quand vous le croisez, vous êtes en vacances avec votre femme, et donc vous avez votre boîte de gestion de patrimoine.
Ah, alors voilà, c'est ça, je suis en vacances, comment ça, et puis ça se fait, on s'est revus plusieurs fois. Hein.
C'est ça.
On s'est revus.
Et l'idée a fait son chemin.
Régulièrement, et... L'idée a fait son chemin. Alors, il n'y a pas eu de prévisionnel, il n'y a pas eu de banquier derrière, il n'y a pas eu de...
Alors, vous allez trop vite. Moi, je voudrais le moment, Christophe, où vous êtes dans votre lit, vous tournez vers votre femme, vous dites, mais en fait, comment s'appelle votre femme?
Sylvie.
Dis donc, Sylvie, si on arrêtait tout et qu'on allait vivre en élevant des chèvres et en faisant du fromage, vous pouvez me raconter ce moment-là, Christophe?
Voilà, grand moment. Alors, elle adore les animaux. Elle en avait deux de biquettes quand elle était plus jeune.
Ok.
Et donc, elle a gardé ça en tête gentiment, mais sûrement, quoi, dans un petit coin. Et puis finalement, elle m'a dit, écoute, ouais, t'as raison, quoi.
Ah, mais voilà, c'est incroyable.
On lâche tout et feu. Et puis.
Il y a combien de temps?
On voit ce qui t'arrive.
Il y a combien de temps, Christophe?
Alors, ça fait 3 ans qu'on est installé.
Ouais.
À côté de ça, on a monté un refuge pédagogique. On est en train de monter un refuge pédagogique en comment ça s'appelle, en participation, vous savez, les contributions collectives qu'on fait.
Oui, oui, c'est ça. Vous avez demandé de l'argent sur Internet, c'est ça, sur les plateformes, c'est ça.
Ouais. Mm-hmm. Donc sur la plateforme, je sais pas ce que je peux dire, mais voilà. C'est Mimosa.
Okay.
Ça s'appelle Mimosa avec deux i.
Ouais.
Hein, c'est les chambres d'agriculture qui ont mis ça en place.
Et comment vous gagnez votre vie là? Vous avez divisé votre salaire par combien?
On fait du fromage, on fait des légumes, on fait de la viande également, parce qu'on a une partie du troupeau qui est destinée à la consommation humaine. Et on gagne à peu près 450 € par mois. Quoi.
Et qu'est-ce que vous gagniez avant, Christophe?
Et avant, j'étais à plus de 12 000 € par mois.
Ok, et comment vous supportez la différence?
Eh bien, on se rend compte que finalement, l'argent n'est qu'un moyen, on va dire, pour assouvir des besoins personnels de consommation.
Ouais.
Mais qu'au final, on n'a pas besoin de tout ça, quoi. Mais vraiment pas. Mmh. Moi, je suis tourné, mais vraiment à fond sur mes animaux.
Ouais.
Dans le sens où c'est du vrai. Voilà. On leur donne quelque chose de vrai, elles nous rendent quelque chose de vrai. Il n'y a pas de fausse diplomatie, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas.
Il n'y a pas Netflix, il n'y a pas le dernier téléphone, il n'y a pas le fauteuil qui chauffe, il n'y a pas tout ça, quoi.
Exactement. Et on se rend compte que finalement, on n'en a pas besoin. Hein. C'est que du superficiel, quoi.
Est-ce que vous avez vu des gens du monde d'avant? Est-ce qu'ils viennent vous voir, les gens d'avant? Ceux de la gestion de patrimoine?
Alors. Il y en a quelques-uns, mais bizarrement, il y en a 99% que je ne vois plus.
Oui, parce que vous leur faites peur ou il y en a à qui vous faites envie, vous pensez?
Alors, il y a, ça dépend des tranches d'âge, en fait.
Ouais.
Voilà, il y en a qui ont ce, quand je leur en parle comme ça, qui ont cette lumière dans l'œil qui dit, ouais, c'est génial. Et très certainement, c'est l'aspect financier qui leur fait peur.
Oui.
L'aspect de travailler 365 jours par an, par tous les temps. Par... Vous voyez, là, aujourd'hui, il neige, j'ai donné mes biberons, mes chevreaux, j'ai fait voilà, j'ai fait quoi, tout ce qu'il y avait à faire encore dehors, et j'en ai encore au moins jusqu'à 20h ce soir. Mais c'est, voilà, comment dire, tous ces rythmes-là, tous ces... toutes ces fractures-là, par rapport aux vies salariales, en fait, peuvent faire peur par certains côtés. Mmh.
Écoutez, Christophe, c'est bleu. Enfin, on entend que vous êtes heureux. On entend que vous êtes heureux avec avec votre femme et vos biquettes. Chapeau. Bravo l'artiste. Regardez la neige tomber sur la mer pour nous. On vous envie. On est avec vous, même si on est très heureux dans nos vies aussi à nous. Hein. Merci,
et
Christophe.
Vous êtes bienvenue.
Eh ben, on viendra, et bien sûr, évidemment. Mimosa, Mimosa, ouais. C'est à Saint-Cyr-sur-Mer. Merci beaucoup, Christophe, d'avoir été avec nous.
Merci
aussi. Non, je voulais vous demander votre avis, Philippe Gabillet, parce que là, c'est quand même un changement. Enfin, c'est presque philosophique comme choix, là.
Ouais, c'est un changement philosophique. Mais voyez, vous me posiez la question tout à l'heure des questions à se poser. Dans le fond, là, on est face à une question qui est la question clé que, en fait, très très peu de gens se posent.
Oui.
Même nous, dans les... C'est de quoi j'ai vraiment envie.
Oui.
Parce qu'en fait, voilà quelqu'un qui a été. C'est d'ailleurs un peu, alors de façon plus radicale, mais ce qui est arrivé avec notre ami qui est passé de sécurité, mécanique et routier. C'est des gens qui sont allés à la rencontre d'eux-mêmes, quoi. Et en fait, ils ont fait ce qui est vraiment, comment vous dire, dans la vie dans laquelle on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, contrairement à nos grands-parents, nos arrière-grands-parents qui, eux, bougeaient pas, nous, on a des tas de possibilités que les autres n'avaient pas. Et ce que je trouve qui est génial, c'est que ces gars-là, parce qu'en fait, on a surtout eu des hommes, en fait, pour le moment, hein, fait, ils ont jamais cessé de se rapprocher de ce pourquoi ils étaient faits.
Mais
et ça c'est super.
C'est très juste ce que vous nous dites. Tout à l'heure on a eu cet homme qui voulait cuisiner mais qui avait des bonnes notes à l'école, donc il a suivi son parcours scolaire. Là bon, ça veut dire qu'on est la société elle nous dirige à un moment ou un autre quand on est petit dans notre parcours scolaire, etc. Mais il y a pas que ça qui compte quoi.
Non, il y a pas que ça qui compte. Elle nous influence et c'est vrai que le jour où on veut quitter ça, d'ailleurs tous à peu près le disent, ça s'est pas fait facilement. C'est-à-dire la caractéristique de tous ces gens, c'est que voilà, il a fallu peut-être rompre certains liens. Pour pouvoir en créer d'autres, vivre avec un autre rythme de vie, avec d'autres rituels, en d'autres lieux. Voilà, on abandonne toujours un certain nombre de choses, et ce qui empêche beaucoup de gens de changer, c'est ne pas en fait oser abandonner tout ça.
Vous rencontrez beaucoup de gens, Antoine Colson, vous dans les entrepreneurs qui ont du mal à passer le pas.
Ah oui, beaucoup. Alors il y a une trajectoire qui est assez fréquente, qui est celle du dernier témoin, qui est celle de la reprise d'une entreprise.
Oui.
C'est très fréquent en région parisienne de voir des cadres qui ont des belles carrières, comme c'était Christophe, je crois,
oui,
tout à l'heure.
Oui, tout à fait.
Et à qui on propose pas forcément, d'ailleurs, un troupeau comme ça sur un plateau.
Non, c'est sûr.
Mais qui recherche une belle entreprise, une belle affaire à reprendre et à redévelopper, qui soit dans d'autres régions.
Oui.
Et c'est un travail qui est très long. Et pour lesquels parfois on a la belle entreprise mais pas forcément dans l'endroit où on veut vivre, et ça c'est comme ça que ça se passe, ou parfois on a l'endroit où on veut vivre ou s'implanter et on trouve pas forcément l'entreprise
bien sûr.
Donc c'est assez fréquent.
On a un message inénarrable de Christophe de Haute-Savoie que j'embrasse. Beaucoup trop de monde en Haute-Savoie, il y a de la pollution, des bouchons, l'immobilier est trop cher, merci de rester à Paris, bien à vous. Et c'est génial, mais par ailleurs c'est vrai que les gens en région, on avait vu la grogne des Bordelais qui disaient les Parisiens, vous êtes bien gentils, parce que aussi la LGV, les Rennais, ils sont envahis par les Parisiens. Les régions grognent un peu, quand même, Antoine Colson, de se voir envahir par les Parisiennes, peut-être le
chien. Ils ont une croissance à gérer, simplement. Ça a été le cas de Montpellier aussi il y a quelques années, qui a explosé comme une ville champignon, et qui, du coup, les autochtones, entre guillemets, ont parfois un peu de mal à s'y faire. Il y a des villes où aujourd'hui presque 20% de la population n'habitait pas. Est originaire d'une autre région il y a 5 ans.
Jean-Claude est avec nous au 32-16. J'ai pas le droit de vous donner la parole, Jean-Claude, mais je peux pas résister parce que votre histoire elle est tellement géniale. Il faut que vous nous la racontiez extrêmement vite parce qu'on est déjà à la bourre, Jean-Claude. Mais vous avez vraiment aussi changé de vie radicalement.
Ben oui, j'ai changé de vie radicalement. J'étais dans une petite ville à côté de La Rochelle, à Surgères.
Ouais.
Et puis j'ai été licencié. Et puis quand j'ai fait ma reconversion, je suis parti sur un diplôme dans le rugby.
Ouais.
Je connaissais pas, je savais pas du tout où j'allais.
Ouais.
Voilà.
Et puis, ben, pendant ma formation, tout a explosé. Le couple, j'ai été reconnu dyspraxique, handicapé, ne sachant pas lire, pas écrire, ou très compliqué, la lecture, l'écriture. J'ai quand même validé mon diplôme en 4 ans. Et puis, Épernay cherchait une personne pour travailler dans leur club. Donc, je suis parti à Épernay, j'ai vendu la maison. Mes enfants m'ont suivi. Et puis, ben, maintenant, je travaille dans ma passion, avec dans le rugby. Et c'est magique, quoi.
Vous avez quitté l'usine pour reprendre vos études et vous avez trouvé la passion de votre vie. Je voulais vraiment vous entendre le dire, Jean-Claude, parce que c'est des belles histoires. Alors oui, on prend des risques en voulant changer. Oui, l'échec est parfois au rendez-vous. Mais souvent, ce qui est au rendez-vous, c'est soi-même. Que ce soit dans l'échec ou dans la réussite. Donc, on vous souhaite de vous poser les bonnes questions. Et pour le faire, eh bien, vous pouvez, si vous êtes une entreprise, aller sur le site de Parcours France. Antoine Colson sera à votre disposition. Et si vous êtes juste quelqu'un qui a envie de changer, vous voulez vous poser les bonnes questions, l'art de changer de vie en 5 leçons, c'est aux éditions Saint-Simon. Merci beaucoup, Antoine Colson. Merci, Philippe Gabillet, d'avoir été avec nous. Tout de suite, on retourne dans le pré et au salon de l'agriculture avec des agriculteurs pas comme les autres. Vous les connaissez par cœur. À tout de suite, 32-16.
RMC, M comme Maïtena.
C'est une aventure assez extraordinaire. Au bout de 15 jours, Frédéric vivait avec moi. Au bout de 2 mois, je lui dis: Fred, je pense qu'on est mûr pour avoir un enfant, ça marche tout de suite.
Le jour où tu tombes sur la personne avec qui tu as envie de passer toute ta vie avec, tu as envie que le reste de ta vie commence le plus tôt possible.
C'est que du bonheur et voilà, on a un petit garçon, Gabriel. You're beautiful.
Maïtena Birabin.
Alors, je peux vous dire qu'ils s'aiment, hein, là, c'est quelque chose. Hein. Mais vous êtes fous amoureux, Pierre et Frédéric, c'est quand même quelque chose, là. Non, mais je vous vois, vous écoutez, là, vous êtes là, vous écoutez générique. Et, alors là, Pierre, vous mettez le bras sur Frédéric en disant: tu te souviens.
Ben oui, parce qu'en fait, c'est des paroles publiques, mais c'est sûr. Mais voilà, après, nous, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien.
Mais oui, c'est
après, comme tous les autres, ils n'ont pas forcément enregistré. Vous n'êtes pas toujours là pour nous enregistrer quand on a quelques conflits. Ça arrive aussi.
Mais non,
ça fait partie du couple.
Ne nous dites pas ça, Pierre. Frédéric des gens. Mais oui, vous le faites très bien. Frère Frédéric de Saint-Pastou sont avec nous, agriculteur, couple star de l'amour et dans le pré, bien entendu. Vous êtes au salon de l'agriculture, là, juste de l'autre côté de la route. Vous racontez parfaitement votre époque, la campagne et les pieds dans les médias.
Oui, en fait, je pense que c'est un hasard complet, puisque quand on démarre dans cette aventure qui est l'amour et dans le pré, on est d'abord là pour trouver quelqu'un. Et moi, je suis pas du tout un enfant des médias. Je n'avais pas la télé, j'écoutais la radio, mais je me suis pas rendu compte de tout cet impact. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, 6 ans après l'aventure, ben c'est vrai que nous rendons compte de l'impact, puisque ça fait 6 ans qu'on était dans cette émission, et encore aujourd'hui, ben on continue à nous en parler. Les gens continuent à s'arrêter pour venir nous saluer. Ça nous fait plaisir.
On va justement parler, mais vous aussi, vous utilisez beaucoup les réseaux sociaux. Vous avez une page Facebook hyper active. Frédéric, vous utilisez les réseaux?
On le fait parce que les gens nous ont témoigné tellement de gentillesse. Ouais. Ils s'intéressent et du coup, comme on s'est un petit peu rencontrés devant les médias, c'est comme si on avait, on va dire, une relation aussi avec les gens, monsieur tout le monde, les démonstrations de gentillesse. Et c'est vrai qu'on se sent un peu coupable de pas partager un peu notre bonheur avec tous ces gens qui aiment bien sûr, mais il y a pas de voyeurisme, mais c'est juste que voilà.
Non, c'est de la sympathie.
Exactement.
Alors, au salon de l'agriculture, vous avez votre stand, vous vendez de l'armagnac puisque c'est ce que vous faites, vous êtes aussi céréalier par ailleurs. Qui vient vous voir? Sont les visiteurs du salon ou les paysans qui viennent vous saluer?
Alors, étonnamment, beaucoup d'agriculteurs, ça c'est sûr, de toute la France.
Qui vous disent quoi?
Qui nous disent en général ceux qui s'arrêtent. On vous a adoré, on vous aime bien, mais ça s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'ils ont aussi envie de savoir qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit, et puis ils jouent en plus le jeu de l'achat derrière. Bon, c'est d'où on est aussi disponible pour parler d'autres choses, mais on est quand même là aussi sur le salon de l'agriculture.
Bah pour vendre, bien
voilà.
sûr.
Et puis certains nous viennent nous dire un peu leur joie et d'autres leur peine, voilà, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs seuls. Il y a un moment un peu compliqué pour le monde rural, il faut le dire, et pour la campagne. On est un peu peut-être comme un rayon de soleil dans une époque un peu compliquée.
Et peut-être un peu plus que ça, peut-être même porte-parole. Aurélien est avec nous au 32-16 et il voudrait vous poser une question à ce sujet. Bonjour Aurélien.
Bonjour Maïtena, bonjour à vos invités, Frédéric et Pierre.
Vous les avez suivis bien entendu à l'époque
en
2012.
Oui, carrément.
Un petit peu carrément, oui. Alors votre question Aurélien.
Bah moi, elle est simple. En fait, c'est vrai que grâce à l'émission, ils ont acquis une certaine notoriété. Et je voulais savoir s'ils avaient l'intention de se servir justement de cette notoriété dans des causes bien précises. Et si oui, bah lesquelles?
Ben, aujourd'hui, en fait, nous, ce qui nous a permis par la notoriété, c'était déjà de pouvoir installer Frédéric, parce que moi, je ne pouvais pas faire ma vie sans travailler avec elle, et c'est vrai que la notoriété a permis, ben, c'est vrai, un peu plus de ventes, donc son installation. Aujourd'hui, on a créé 4 emplois en 3 ans, 4 CDI. Dans un petit village de 320 habitants, c'est énorme. On a en projet d'embaucher 2 personnes de plus. Donc aujourd'hui, c'est sûr qu'on n'est peut-être pas sur des causes nationales ou des choses, des grands combats, des choses comme ça.
Vous évoquiez ce que les paysans, les agriculteurs viennent vous dire sur le salon, leurs difficultés, etc.
Ça, c'est sûr, on est très disponible pour ça, parce que le monde de la campagne traverse un moment difficile, pas uniquement pour des histoires de revenus, il y a vraiment des endroits vides, il y a des endroits où il y a un manque de renouvellement de génération, où les nouveaux habitants n'arrivent pas, et c'est vrai qu'on essaye de discuter, de prendre le temps avec chacun, etc. Mais je ne dirais pas qu'on a une ambition sur des grandes causes. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est plutôt sur des choses assez concrètes, et essayer aussi à travers notre entreprise de, on reprend des terres par exemple de voisins, mais derrière on veut créer de l'emploi, on veut pas...
Vous avez ouvert des chambres d'hôtes.
On va essayer de... Pour moi, c'est important, ça.
Frédéric, vous n'étiez pas du tout là-dedans. Vous êtes devenue agricultrice, donc par amour. Qu'est-ce que vous en dites de ce métier aujourd'hui? Maintenant, vous le connaissez un peu, ce métier. Qu'est-ce que vous en dites?
Disons que nous... Bon, moi, je suis quand même avec un viticulteur céréalier. On n'a pas les mêmes problématiques que les éleveurs. Parce qu'effectivement, on n'a pas les mêmes contraintes. Mais on a quand même des contraintes aussi. Voilà.
Votre vie de...
C'est un métier... Moi, je trouve que c'est quand même une vocation. C'est un sacerdoce, vraiment. Ouais. C'est que les gens qui font ce métier, c'est vraiment des gens passionnés. Parce que les gens ne regardent pas du tout le côté financier ou les horaires ou le manque justement de pouvoir avoir une vie de famille calme, 35 heures. Enfin, voilà. C'est pas du tout ça. C'est vraiment une passion. Donc... c'est dommage que certains ne puissent pas vivre vraiment de cette passion, parce qu'en plus c'est vraiment le retour à l'authentique, l'envie de conserver vraiment un patrimoine, une histoire, une culture, des histoires de famille.
Qu'est-ce qui vous a surpris le plus, vous, dans cette vie-là?
L'entraide aussi.
Ouais.
Cette solidarité. Alors c'est pas partout, c'est pas dans tous les corps de métiers agricoles.
Non.
Mais c'est cette universalité. Les gens qui se rencontrent en 2 secondes, les agriculteurs vont parler de leur tracteur, de leurs problèmes. C'est voilà. Les gens se sentent à l'aise. C'est des gens simples. Voilà. Je trouve que c'est touchant.
Merci beaucoup Aurélien pour votre question à Pierre et Frédéric de Saint-Bastou, qui sont donc agriculteurs et donc sur le salon de l'agriculture. Évidemment, c'est difficile de ne pas vous parler des politiques. Vous les avez vus passer, là?
Alors, nous, on a vu les hommes politiques de notre territoire, du Gers. Hein, voilà, on tient absolument à les rencontrer. Bon, on n'a pas eu le privilège de recevoir ni le ministre, ni le président de la République.
Mais il est resté 12 heures, il a battu le record, dites donc.
Oui, mais le salon est immense, quoi. Donc, je pense que c'est compliqué de faire le tour partout. Mais il n'empêche que nous, on est toujours dès qu'il y a un homme politique, le local, même un conseil général, même un maire de commune, et on a des maires de commune d'Occitanie qui sont venus un peu manifester par rapport aux zones défavorisées, ils sont passés devant le stand. On les accueille, on discute avec eux, on a envie de leur montrer nos productions, on a envie de on sait très bien que la solution agricole c'est pas
le CAC
40 qui va tout résoudre. Au contraire, on a absolument besoin d'eux, et on a besoin de les sensibiliser à nos coûts de production, on a besoin de les sensibiliser à la manière dont on doit être aidé pour vendre, etc.
Autour de vous, les agriculteurs, ils commandent beaucoup la visite des hommes politiques, le président de la République par exemple. On en parle après dans les travées?
Oui, alors on en parle. Alors c'est très compliqué, parce qu'il y a, on sent que le monde agricole est un peu désabusé, parce que gens ont l'impression que les hommes politiques, viennent tâter le cul des vaches, comme on dit, mais est-ce que concrètement il y a des choses derrière?
Alors Pierre, je vous propose d'écouter ce qui s'est passé, parce que c'était quand même assez étonnant avec le président de la République.
Non, attendez, vous êtes calme?
Oui, je suis calme, moi.
Vous m'avez sifflé dans d'autres depuis tout à l'heure. Vous m'avez sifflé dans d'autres depuis tout à l'heure.
Elle est incroyable, cette expression, vous m'avez sifflé dans le dos. Alors, je vous vois faire l'amour, Frédéric.
Je suis pas sûre que ça soit le bon endroit pour que calmement ils puissent mettre à plat des problèmes.
Bon, ils ont réussi à discuter finalement après.
Ce qui est bien, oui. Mais après, il faut voir le suivi également.
Oui.
C'est que là, c'est une première porte ouverte avec on rentre dans un couloir, mais est-ce qu'après on peut ouvrir une deuxième porte, une troisième porte et vraiment trouver des solutions concrètes et des solutions qui vont pouvoir s'adapter à chacun? Parce que c'est vraiment très divers. Chacun a des problématiques. Donc, voilà.
Pierre, pardon, excusez-moi. excusez-moi.
Non, mais moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on est un des seuls continents où on n'investisse plus sur l'agriculture. On fait marche arrière. Tous les pays du monde investissent sur l'agriculture, sur l'agroalimentaire. Et nous, on a l'impression que l'Europe, à chaque fois, il faut en donner de moins en moins parce qu'il y a d'autres priorités, etc. Mais bien sûr que non, l'agriculture, elle est créatrice d'emplois, de valeur ajoutée. L'image de la France, c'est quoi? C'est quand même le vin, c'est quand même les bons produits français.
Alors,
mais
justement,
concrètement, sur le terrain, c'est compliqué.
Vous avez vu la polémique la semaine dernière avec Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui dit le vin est un alcool comme les autres. Pierre, il lève les yeux au ciel et fait pfff. Bon, non, alors le président de la République a dit je bois midi et soir et il faut arrêter d'emmerder les Français en citant Pompidou. Vous,
chacun est responsable, Pierre, de sa consommation. Chacun, ouais, est responsable.
Avec modération.
Bien sûr. Je veux dire, moi je suis dans un département, c'est prouvé, ça fait des siècles que c'est comme ça, où il y a le moins de maladies cardiovasculaires, où les gens vivent le plus longtemps, le Gers, et je peux vous dire, on consomme, alors on consomme même jeune, on apprend à découvrir, c'est par là que se passe le, bien sûr la découverte, mais aujourd'hui on peut pas dire ça, le vin ça rapporte de l'argent à l'État, et heureusement ça fait rentrer des devises, etc. Et il faut que ça continue, les Chinois, les Américains et tout ça, ils rêvent un peu de nos avions aussi, bon, mais ils rêvent surtout de notre vin, ouais, de notre art de vivre à la française.
Vous exportez, vous, beaucoup d'Armagnac,
mais
par
non,
exemple?
On exporte un petit peu en Suisse, on a un bon marché là-bas, et on commence un peu à aller en Chine, c'est très compliqué parce que le grand cousin du cognac qui est très connu, en fait on arrive un peu derrière, on profite de cette formidable, ouais, énergie qu'il développe pour essayer de vendre de l'Armagnac. Mais on fait rêver. Moi j'ai reçu des Chinois de Shanghai, de Singapour, de partout, ils arrivent dans nos fermes où il y a presque de la boue partout, etc. Ils hallucinent, des générations
parce que
qui
quoi,
distillent.
Dans les fermes en Chine, il n'y a pas de boue.
Et non, parce que peut-être que ce qui est différent, c'est qu'il y a une histoire.
Ouais.
On l'a cette histoire, ouais, on ne va pas se cacher, on ne va pas se mettre un voile, ouais, sur les yeux, on a cette chance, on n'a pas besoin de leur raconter des histoires, ça fait depuis 700 ans qu'on distille dans notre, ouais, département. Mais je peux vous dire concrètement, l'énergie des entreprises sur le terrain, c'est compliqué.
C'est un patrimoine, ça fait partie de la culture française.
Mais complètement, ouais, enfin je veux dire, c'est un art, c'est quelque chose à la fois de scientifique, de philosophique.
Frédéric Pierre, il vous l'avait caché, mais la famille Saint-Pastou de Bon Repos remonte au 11e siècle et le père de votre mari est baron.
Mais oui, alors mon père, il est parti il y a un mois et demi, mais paix à son âme, il doit nous regarder du haut des cieux de l'Armagnac en ce moment. Mais c'est vrai que voilà, moi je suis issu d'une vieille famille qui au départ était de Bigorre, et puis par opportunisme, mais non, pas du tout, par amour, mon grand-père a épousé ma grand-mère, et c'est comme, oui, ça qu'on est devenu bouvier de crue en bas Armagnac.
Et c'est votre grand-mère qui a amené l'Armagnac.
Voilà,
c'est toujours
exactement
les femmes qui décident de tout par,
voilà,
chez nous.
Allez. Il me l'avait pas dit.
Il vous l'avait pas dit. Eh ben mais ça, non, y est, c'est fait. Je vois qu'il vous laisse pas beaucoup parler, dis donc.
RMC. J'aime
pas trop beaucoup ça.
J'aime pas.
Oui, vous avez laissé Frédéric parler, Pierre de Saint-Pastou. Vous allez me dire si vous aimez ou si vous n'aimez pas Agathe, la poule de l'Elysée, offerte au président de la République. Vous avez vu ça? C'est Yves de la Fouchardière, directeur général des fermiers de Loué, qui a offert une poule au président Macron. Je sais pas si elle va cohabiter avec Nemo. Agathe et Nemo. C'est drôle. Vous aimez? C'est rigolo ça, non?
Ouais, c'est pas mal.
C'est pas mal, ça. Vous n'aimez pas la fin du statut de cheminot. C'est annoncé par le Premier ministre aujourd'hui. Dorénavant, ceux qui rentreront à la SNCF n'auront plus le statut de cheminot. C'est terminé, c'est fini.
Et on n'est pas d'accord là-dessus avec Frédéric, mais on s'aime quand même.
Ah, vous n'êtes pas d'accord?
Moi, je suis pour garder le statut.
Et je dis qu'il y a des métiers beaucoup plus compliqués et voilà, je pense que des problématiques sont pas les mêmes.
On a envie de vous suivre, on a envie de savoir comment ça se passe quand même, on aimerait bien savoir. Merci beaucoup à vous deux d'avoir été avec nous. Je vous laisse, vous allez retourner dans la grande halle là, oui, subir les meules et les clochettes et tout ça. Et on passera vous voir, bien entendu. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vincent!
Hop, comment ça va?
Bah, pas mal, et toi?
Est-ce que t'es en forme? Bravo à Pierre et Frédéric, bien entendu, je les embrasse. Je les embrasse, écoute-moi, ouais, on va parler de Neymar.
Oh là là, il a mal, oh, le petit chou.
Blessure terrible, on a fallu, ouais, dire l'hélicoptère, on a fallu l'amputer, enfin, je sais pas s'il jouera pour le match retour au Real Madrid. Oh, mais la souffrance, quand il est tombé, j'ai cru qu'il avait pris un coup de fusil.
Oh,
écoute, ça sera le super Moscato Show, on a plein de débats, on parlera bien entendu du tournoi. Voilà.
Sans Neymar, est-ce mission impossible? Super Moscato Show, c'est tout de suite, vous mettez dans l'ordre. À demain, 15h sur RMC, au fond d'un train ou dans un vieux grenier. Tu sais quoi?
Ah oui, je sais.
On va s'aimer.
RMC, M comme Maïtena.